avez parlé pendant la conférence de la difficulté parfois pour les médias d'intéresser à propos de certains sujets écologiques. Comment vous faites pour vous faire relais entre les scientifiques et votre audience et pour réussir à sensibiliser cette audience et l'amener vers ces sujets-là?
Il y a quelque chose qui est très important dans l'information, c'est l'usage, c'est-à-dire comment je consomme et je restitue l'information. C'est-à-dire qu'entre un jeune qui s'informe via les réseaux sociaux et quelqu'un qui s'informe via un journal papier, on est sur deux modes de consommation de l'information avec finalement des récits et des modes de narration qui doivent s'adapter à cette diffusion-là. Donc forcément, dans les contenus qu'on propose sur nos réseaux sociaux, par exemple, ou sur notre site internet, on va être davantage sur des formats très multimédia autour de l'image, autour de parfois de stories, d'audio également, de vidéos, qui vont être plus adaptées finalement à ce qui est l'information sur un mobile, c'est-à-dire sur un téléphone portable. Et dans le même temps, on n'en oublie pas de transformer tous ces contenus qu'on peut rendre dynamiques en quelque chose de plus traditionnel, qui est du récit, qui est de l'infographie, qui est un article construit de manière à toucher un éventail le plus large possible. Nous, on a un journal qui est un journal généraliste qui s'adresse non pas à une cible précise, c'est-à-dire on n'est pas Brut ou Combini, on est un journal qui doit être en capacité d'intéresser de 10 à 99 ans. La seule chose qu'on s'est dit sur cette question-là et qui nous paraît, nous, essentielle, c'est que si on s'adresse à un jeune public, on est quasiment sûr d'intéresser les plus âgés. Si on s'adresse aux plus âgés, on est quasiment sûr de ne pas intéresser les plus jeunes.
Dans les jeunes recrutés aujourd'hui, dans les jeunes recrues, est-ce qu'il y a, vous observez un changement dans la façon d'appréhender l'écologie et plus largement la question environnementale?
Alors, on était en train de parler à l'instant avec un professeur qui est venu avec ses élèves. C'est que cette dimension-là n'est pas encore complètement intégrée dans les écoles de journalisme, par exemple.
C'était une thématique en fait qui était travaillée de plus en plus.
Alors, on a travaillé surtout des formats dans les écoles de journalisme, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître ces dernières années la vidéo, l'audio, etc., etc. Mais le contenu même des formations, elles sont moins sur le contenu que sur la technique. Et on voit bien que la question environnementale, comme on a eu à une époque des gens qui voulaient se spécialiser, aujourd'hui on sent qu'il y a un appétit de journalistes pour se spécialiser dans les questions sociétales et environnementales. Et donc on commence à voir des gens qui se perfectionnent au travers de formations, de choses comme ça. Et je pense que les écoles de journalistes vont intégrer très rapidement, comme l'ont fait les organismes de formation. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des organismes de formation qui n'avaient pas au catalogue l'environnement il y a encore seulement 2 ans. Aujourd'hui, ils proposent des formations sur plusieurs jours à destination des journalistes. Il y a une prise de conscience aussi dans les organismes de formation. Là, on doit faire attention, c'est que ça ne devienne pas une mode. Une mode et un business. C'est-à-dire, en gros, on s'est dit, tiens, il y a de quoi faire de l'argent autour de l'information environnement. Nous, on veut des choses pertinentes. Donc là, je disais aux profs tout de suite, on vient de relancer une campagne de recrutement de journalistes. On a reçu 350 CV. On commence à regarder ces spécialités-là dans les CV. Pour voir si on a des gens qui sont en accointance avec ces sujets et être tout de suite efficaces sur ces thématiques.
C'est quoi vos garde-fous ou les garde-fous qui pourraient être mis en place pour pas tomber dans ce côté greenwashing et business?
La charte qu'on a travaillée, qui est une charte de plus de 40 pages, donc c'est pas 12 ou 13 points, c'est tout un travail qui a été fait par les équipes de journalistes pour permettre à chacun des journalistes de West France, quand ils se retrouvent face à une situation, d'être en capacité de, par exemple, il a un glossaire à disposition sur les mots à ne pas utiliser. Mini-tornade, par exemple, ça n'existe pas, mini-tornade. C'est soit une tornade, soit ce n'est pas une tornade. Mini-tornade, c'est quelque chose qu'on voit apparaître, fleurir dans les articles ou à la télé, pour expliquer que le phénomène, il est plutôt mineur. Non, c'est soit il y a une tornade, soit il n'y en a pas. Ce sont des détails parfois, mais ce n'est pas des détails sur un plan scientifique. C'est pour ça que notre charte, elle a été validée par 6 membres du GIEC qui l'ont relue, qui l'ont amendée, qui l'ont validée et qui sont venus même lors de la présentation pour échanger sur ces questions. Donc tout ce travail, il permet aujourd'hui aux journalistes de West France d'avoir un cadre relativement précis et à chaque fois un document de référence sur lequel s'appuyer quand ils auront un doute. C'est quoi le greenwashing? Et on a travaillé avec d'autres. On est allé voir aussi ce qu'avait fait le journal Le Temps en Suisse, qui a travaillé sur cette question-là, parce que c'est pas évident à décrypter le greenwashing, c'est pas si simple que ça. Et ben tous les labels qui fleurissent, la moitié sont complètement bidons. C'est d'être capable aussi d'être en formation continue sur ces questions-là. C'est pour ça qu'on fait venir des experts chaque semaine. La semaine dernière, vendredi dernier, on a eu une conférence sur finance et climat, comment les banques participent au dérèglement climatique. Et ben il y a Lucie Pinson qui est à la tête de l'ONG Réclame Finance, qui est venue raconter ça aux journalistes. Et ils sont repartis avec une somme d'informations, parfois très techniques, mais au moins ils sont un peu plus au courant de ces questions-là.